entendez ce grondement ? C'est le grondement d'une montagne qui s'apprête à emprisonner les hommes qui travaillent en son sein.
Je n'ai pas honte de dire qu'à ce moment, j'ai fondu en larmes à la pensée que je ne reverrai plus les miens.
Ces mots sont ceux d'un mineur chilien piégé à 700 mètres sous terre au cœur du désert d'Atacama. En août 2010, la mine dans laquelle il travaille s'effondre. En tout, ils sont 33 à se retrouver emmurés vivants dans les profondeurs. Ils n'ont quasiment rien à manger, aucun moyen pour communiquer avec la surface.
Nous avons l'air d'hommes préhistoriques, couverts de suie. Et la plupart d'entre nous ont visiblement maigri. Au fond, les jours et les nuits n'existent plus. Il n'y a que l'obscurité.
Avec courage, les hommes s'organisent pour tenir le plus longtemps possible.
Recharge pas dans 24 heures.
Redoutant que cette mine ne devienne leur tombeau.
Comme on n'entendait rien, on était désespérés. On pensait que personne ne nous cherchait.
En réalité, en surface, une course contre la montre s'engage pour les délivrer. Durant 69 jours, le monde entier retient son souffle, suivant en direct cette opération de secours hors norme. Comment les mineurs ensevelis ont-ils tenu pendant tout ce temps ? C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène dans les entrailles de la Terre, aux côtés de ces hommes qui sont parvenus à s'extirper de leur prison de roche in extremis. Août 2010. Le jour se lève sur le désert d'Atacama au Chili, l'un des déserts les plus arides de la planète. Au cœur de ce vaste territoire rocailleux parsemé de montagnes orange grisâtres, un bus roule dans un nuage de poussière. Il transporte des mineurs. Le sous-sol de l'Atacama recèle quantité de minerais. Au creux de ces montagnes, on trouve de l'or, du cuivre et du fer. Le bus vient de la ville minière de Copiapó, bâtie en plein désert. Après avoir roulé 50 km, il atteint la mine de San José. À la surface, quelques baraquements vétustes. Pour saisir le gigantisme de cette mine, exploitée depuis 120 ans, il faut plonger sous terre. C'est un véritable dédale creusé à l'intérieur d'une montagne à coups de pioches, de machines et d'explosifs. Un réseau souterrain fait de grosses artères et de galeries reliant cavernes et gouffres. Elle est exploitée sans interruption 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les camions de l'équipe de nuit émergent des profondeurs par un trou de 5 mètres de haut sur 5 de large. Cette bouche béante est l'unique accès à la mine. Les hommes de l'équipe de jour esquissent un signe de croix devant la statue de la Vierge Marie installée à l'entrée de l'exploitation. Puis leur camion s'engouffre dans la gueule de la montagne. Le tunnel qu'il emprunte, la rampe comme l'appellent les mineurs, décrit une gigantesque spirale qui s'enfonce en tourbillonnant vers les profondeurs. Il faut parcourir 8 km de tunnel pour atteindre les veines encore exploitables à 700 mètres sous terre.
Vous êtes prêts, les gars ? On travaille tout au fond aujourd'hui.
Luis Urzúa, sous son casque blanc de chef d'équipe, regarde les visages des hommes qu'il aura sous sa responsabilité aujourd'hui. La composition de l'équipe change d'un jour à l'autre. Il y a quelques vieux briscards.
Mario Gomez, 59 ans. Notre patriarche à tous. C'était l'une de ses dernières semaines dans la mine, avant de pouvoir enfin prendre sa retraite.
Beaucoup sont encore loin de la retraite, comme Ariel Ticona, 29 ans. Sourire aux lèvres, les yeux dans le vague, peut-être songe-t-il à son futur bébé. L'accouchement de sa femme est prévu pour dans un mois et demi. À côté, Yoni Barrios se fait gentiment charrier. Ses histoires de cœur aux allures de vaudeville amusent la galerie. Son épouse a découvert qu'il avait une maîtresse et depuis, les deux femmes se livrent une guerre ouverte.
Où est Carlos Mamani ?
À bord du camion, Carlos Mamani se fait plus discret. C'est son premier jour à San José. Il est très jeune et vient de Bolivie. Il a déjà remarqué quelques regards hostiles de la part de ses collègues. Beaucoup de Chiliens n'aiment pas les Boliviens.
C'est un chercheur d'étain. Et qu'est-ce qu'un chercheur d'étain de Bolivie peut bien foutre dans une mine d'or ?
La descente dans la mine ressemble à l'ascension inversée d'un haut sommet. À mesure que le camion s'enfonce, il fait de plus en plus chaud et l'air est de plus en plus lourd. Après 45 minutes de descente, la température ambiante dépasse les 35 degrés et le taux d'humidité frôle les 90%. La mine de San José attire autant qu'elle effraie. Le salaire y est 3 ou 4 fois plus élevé qu'ailleurs, mais les mineurs connaissent les risques de leur métier. Et tout particulièrement à San José. La gestion de cette mine est désastreuse. Les propriétaires n'hésitent pas à sacrifier les normes de sécurité sur l'autel du profit. 3 mineurs sont morts ici au cours des 7 dernières années et l'on ne compte plus les accidents. Le sort de ces travailleurs des profondeurs ne semble pas émouvoir outre mesure les autorités de contrôle. Le camion s'arrête au niveau 40 de la mine, à près de 700 mètres sous terre.
Ok les amis, vous savez quoi faire.
Les hommes descendent, lampes frontales vissées au casque, ouais. Outils à la ceinture.
Allez,
ils se dispersent par petits groupes dans les galeries pour commencer leur longue journée de labeur. Sur la rampe, pelleteuses et pick-up se croisent. Le fond de la mine prend des allures de fourmilière. Plus d'une heure après tout le monde, Mario Sepúlveda rejoint ses camarades.
Salut les gars.
Il avait raté la navette.
Salut Mario, ça va ?
C'est une figure de la mine, une grande gueule au grand cœur. On se réjouit de le voir arriver. Mais ce matin, une inquiétude particulière règne dans les galeries. Des grondements sourds, inhabituels, se font régulièrement entendre. Il y a plusieurs mois déjà, des mineurs ont signalé des fissures suspectes dans les niveaux supérieurs.
On est peut-être en présence d'une faiblesse dans la structure interne de la montagne.
Le directeur général de la mine, Carlos Pinilla, leur a assuré qu'il n'y avait rien à craindre. En milieu de matinée, alors que Pinilla patrouille au volant de son pick-up dans les tunnels, des mineurs l'interpellent.
La montagne émet des bruits qu'on ne devrait pas entendre à cette profondeur.
Pas d'inquiétude, la montagne retrouve ses marques. Allez, 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 on reprend le boulot.
Oh ! Pas question pour Pinilla de perdre une journée d'exploitation. Le directeur ne s'attarde pas au fond. Il regagne son bureau en surface. Les mineurs s'affairent, perçant la roche, maniant les pelleteuses, déversant des pierres dans les remorques. Quand soudain, aux alentours de 13h30,
on a senti comme des grands coups de tonnerre.
Qu'est-ce qui se passe ?
Le sol tremble, les lumières vacillent.
Plus vite, attention, dépêchez-vous,
là, courez, les gars.
Courez, dépêchez-vous.
Le fracas et l'onde de choc se propagent et figent la trentaine d'hommes dispersés dans les galeries.
J'ai eu l'impression que mes yeux sortaient de mes orbites, que mes tympans allaient exploser. On aurait dit que les vitres de ma machine gonflaient. J'ai vu mon camion envahi par la poussière.
Le vacarme s'apaise au bout d'un quart d'heure. Lorsque la poussière retombe, un petit groupe monte avec un pick-up le long de la rampe. Après plusieurs tours de spirale, la voiture s'arrête net.
Les gars,
les hommes n'en croient pas leurs yeux.
Vous devez voir ça.
Devant eux se dresse un mur.
Il n'y a aucune issue. Oh mon Dieu.
La rampe est obstruée du sol au plafond par une paroi rocheuse. Ce n'est pas un éboulement de pierre qui les empêche de passer, mais un mur d'un seul bloc, lisse et uniforme.
Il n'y avait aucune possibilité de passer. Même une fourmi n'aurait pas pu se faufiler. La sortie était totalement bloquée par la roche.
Les mineurs ne se doutent pas de la taille du colosse qui leur barre la route. Un bloc de granit de 170 mètres de haut et de 770 000 tonnes, soit 5 fois le poids de la tour Montparnasse, vient de se décrocher au cœur de la montagne. En s'effondrant, ce méga-bloc fait de diorite, un type de granit particulièrement dur, a sectionné la rampe sur plusieurs niveaux. la plupart des hommes se rassemblent hébétés dans le refuge, une pièce aménagée pour les temps de repos, creusée dans la roche à 688 mètres de la surface.
La rampe est bloquée, Brario. Et la route, il n'y en a plus, il n'y a aucune issue.
Si on passe par les cheminées, il y a des échelles là-bas.
C'est trop dangereux.
Mais un petit groupe de 8 mineurs veut encore y croire. À sa tête, Mario Sepúlveda, le retardataire de la matinée. Ils veulent tenter de regagner la surface par les cheminées de ventilation. Ces conduits verticaux passent d'un étage à l'autre de la mine. La réglementation impose qu'ils soient équipés d'échelles pour évacuer en cas d'urgence.
Allez les gars.
Mario Sepúlveda, suivi de ses coéquipiers, entame l'ascension des échelons métalliques de la première cheminée qu'ils doivent emprunter. Mais arrivé à la cheminée suivante, les mineurs découvrent avec stupeur qu'elle est dépourvue d'échelle.
Non, mais je le crois pas.
Impossible de grimper. Ils n'ont pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Quand ils rejoignent les autres dans la salle du refuge, une autre mauvaise nouvelle les attend. Toutes les connexions avec la surface ont été rompues. Plus d'électricité, plus de téléphone, ni d'eau au robinet. Et pour achever le tableau, ils s'aperçoivent que les deux caisses de nourriture entreposées là en cas d'urgence ont été forcées. Elles contenaient de quoi nourrir 25 personnes pendant 48 heures. Mais juste après l'effondrement, quelques hommes n'ont pas résisté à la tentation et se sont allègrement servis dans les paquets de biscuits. Mario Sepúlveda est écœuré par l'attitude de ses camarades.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste quelques biscuits. Et alors ?
On est enterrés vivants. Voilà le problème. Et ça, c'est toute la bouffe que nous avons pour nous tenir en vie. Il faut la rationner avec attention si on espère survivre jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher.
Après ces mots de Mario Sepúlveda, un silence s'installe. Le chef d'équipe, Luis Urzúa, particulièrement discret depuis l'effondrement de la mine, prend la parole à son tour.
Bon, vu les circonstances, on est tous égaux maintenant. J'ôte mon casque blanc. Il n'y a plus de patron ni d'employé. Il faut qu'on décide ensemble de la suite des événements.
Les plus respectés, les plus charismatiques prennent le relais du chef des missionnaires. D'abord, se compter. Combien sont-ils précisément ?
32.
Ça va aller ?
33. Ça va. On est tous là.
33 ? L'âge du Christ, merde.
Sepúlveda fait l'inventaire des stocks de nourriture qu'il reste.
Une boîte de saumon, une boîte de pêche au sirop, 18 boîtes de thon, 24 litres de lait concentré, pour 8 périmés, 93 paquets de gâteaux, enfin moi ceux qui viennent d'être pillés, et seulement 10 bouteilles d'eau.
Les maigres réserves sont mises sous clé. D'un commun accord, la clé est confiée à Mario Sepúlveda. Le stock de bouteilles d'eau est dérisoire, mais les mineurs pourront compter sur les citernes destinées au refroidissement des moteurs.
On a dû sortir l'eau des containers, de l'eau industrielle, totalement contaminée. Dans cette eau-là, il y avait du pétrole, de l'huile, des résidus d'explosifs, des gants, des chaussures, de la poussière.
Combien de temps devront-ils tenir dans ces conditions ? L'inquiétude et la crainte se lisent sur les visages.
Vous vous rappelez cette mine au Mexique qui s'est écroulée sur des gars ? Tout ce qu'ils ont fait, c'est coller une dalle sur l'entrée et dire « Ils sont morts, voici leur pierre tombale ».
Les sauveteurs pourraient peut-être creuser une seconde rampe pour accéder au fond ?
Oui, sauf que pour creuser la rampe ici, ça leur a pris 10 ans.
Les hommes se répartissent dans le refuge d'une quarantaine de mètres carrés pour passer leur première nuit dans la mine. Affamés, angoissés, ils entendent régulièrement tonner la montagne, comme si elle n'en avait pas fini avec eux. Dans l'obscurité, certains prient, d'autres craquent. L'un des doyens, Omar Regadas, s'effondre.
Je n'ai pas honte de dire qu'à ce moment, j'ai fondu en larmes, à la pensée que je ne reverrai plus les miens, à la pensée de ce qu'ils allaient subir là-haut.
Qui se soucie du sort de ces mineurs et de leurs familles en surface ?
Lorsque le cœur de la montagne s'est affaissé, un épais panache de fumée chargé de poussière a jailli de l'entrée de la mine. Peu après, le directeur, Carlos Pinilla, est entré, accompagné de quelques hommes avec son pick-up, dans la partie supérieure de la mine, encore accessible. Mais après 4 km de descente en colimaçon, il a vu dans la lumière de ses phares la rampe obstruée par une paroi du même bloc qui retient prisonniers ses employés 130 mètres plus bas. Pinilla a instantanément pris conscience de la gravité de l'accident.
Il devait y avoir des morts. Enfin, j'en étais sûr et certain. Et c'était moi, le salopard, qui les avait fait descendre aujourd'hui.
Les propriétaires de la mine se résolvent à appeler les secours, mais ils n'informent pas les familles des mineurs. Au fil des heures, la nouvelle finit par se répandre.
Nous prenons l'antenne pour vous informer d'un événement dans la mine de San José, située dans la 3e région, à 46 km de Copiapó.
La plupart des proches des mineurs apprennent la catastrophe par la radio ou la télévision. Les compagnes, les épouses, les parents, les enfants se rendent sur place, affolés. Ils sont nombreux sur le site minier le lendemain de l'effondrement. Le directeur de la mine est assailli de questions.
Avez-vous un contact avec les survivants? J'ai pas d'informations à vous donner là-dessus. Tout est organisé en ce qui concerne les secours. Nous sommes prêts pour commencer les opérations.
Et est-ce que vous avez réussi à les contacter?
Non. Non, nous n'avons pas réussi.
À la vérité, Pinilla ne sait même pas si un seul de ces hommes a survécu à l'accident. Quant aux opérations de secours, elles sont bien incertaines. Des sauveteurs tentent d'emprunter les cheminées de ventilation, mais la montagne est trop instable. À tout moment, ils risquent d'être ensevelis à leur tour. Ils doivent renoncer. Il va falloir imaginer un autre moyen pour accéder aux éventuels survivants. Un défi technique colossal attend les sauveteurs.
Mario, hein, celui-là en a moins.
Emmurés vivants dans le sous-sol du désert d'Atacama, les mineurs ont mis en place un rationnement drastique pour faire durer le stock de vivres le plus longtemps possible. Mario Sepúlveda dispose 33 gobelets devant lui et dépose dans chacun d'eux une cuillère à café de thon en boîte à laquelle il ajoute un peu d'eau.
Bon allez, bon appétit.
Seigneur, bénissez cette nourriture, amen.
Ah, c'est délicieux. Faites durer, hein.
Ce sera le seul repas de la journée. La chaleur est difficilement supportable dans le refuge qui n'est plus ventilé. La plupart des hommes sont torse nus, ruisselants de sueur. Ils ont convenu de ne pas se laver pour économiser l'eau. Les odeurs de transpiration s'entremêlent.
J'ai déjà senti des cadavres. Au bout d'un moment, c'était encore pire là-dedans.
Ça et là, quelques mains tremblent, trahissant des hommes en manque d'alcool. Ce sevrage brutal et forcé est une épreuve dans l'épreuve. Victor Segovia, 48 ans, commence à tenir un journal. Après 3 jours passés sous terre, il note.
Je suis affaibli. Je respire avec peine. J'ai l'impression de devenir fou.
Victor Segovia est originaire de la ville minière de Copiapó, à 50 km de la mine. Il n'a jamais quitté les frontières de l'Atacama.
On se sent complètement impuissant. Nous ne savons pas s'ils essaient de nous sortir de là, ni ce qui se passe à l'extérieur. Ici, dans ce trou, nous n'entendons pas une machine.
Notre Père qui êtes aux cieux.
Pour tenir, beaucoup de mineurs se sont mis à prier. L'un d'entre eux, José Enriquez, se lance de plus en plus souvent dans ce qui ressemble au prêche d'un pasteur.
C'est une épreuve que Dieu nous envoie, afin que nous pensions à toutes les erreurs que nous avons commises. Si nous nous en sortons, ce sera comme une renaissance.
Dans son journal, Victor Segovia écrit
« Nous avons l'air d'hommes préhistoriques, couverts de suie. Au fond, les jours et les nuits n'existent plus. Il n'y a que l'obscurité et les explosions. »
Les explosions, ce sont les grondements et les éboulements qu'ils entendent au loin. Mais le 8 août, à 19h15, soit 78 heures après l'effondrement de la mine,
chut, chut.
il leur semble percevoir un bruit d'une autre nature.
Hé, vous entendez ça, les gars? Vous entendez?
Oh, qu'il est beau, ce bruit.
C'est un bruit qui perce et qui martèle. Un bruit de foreuse qui creuse la roche. On ne les a pas abandonnés. Là-haut, on croit possible qu'il y ait des survivants et l'on n'a pas renoncé à venir les chercher. Les mineurs ne se doutent pas que leur sauvetage est devenu une affaire d'État. Le ministre des Mines, Lawrence Goldborn, est sur place pour suivre les opérations. Le président du Chili, Sebastián Piñera, est également très impliqué. Une mauvaise gestion de la catastrophe risquerait de lui coûter cher dans les sondages. Les plus grands spécialistes du pays ont été appelés et une dizaine de foreuses sont à l'œuvre. L'objectif est de viser la salle du refuge ou les galeries alentour. Mais la roche extrêmement dure risque de faire dévier la trajectoire des foreuses. Alors, pour augmenter les chances d'atteindre l'objectif, 9 puits sont en cours de forage. 9 flèches pour une minuscule cible à très exactement 688 mètres sous terre. Il faudra creuser 6 jours sans interruption pour atteindre une telle profondeur. Et à chaque tir manqué, il faudra tout recommencer depuis la surface. Les chances de succès sont minces, mais il faut montrer aux familles des mineurs qui campent sur place et à la population qui suit l'affaire à la télévision que tout est mis en œuvre pour sauver les éventuels survivants. Un journal de Santiago estime la chance de survie des mineurs à 2%. Les autorités feignent l'optimisme. En réalité, elles se préparent secrètement au pire. En cas d'échec, la mine sera scellée et élevée au rang de sanctuaire. Dans le fond de la mine, les bruits de foreuses ont redonné espoir aux mineurs.
Nous sommes plus détendus. Maintenant, ici, ça va devenir une vraie famille. Nous sommes amis et frères. Parce que ce qui nous arrive, ça ne se produit qu'une fois dans une vie d'homme.
Les jours passent et le temps s'étire dans l'obscurité moite des entrailles de la montagne. Pour passer le temps, Luis Urzúa a fabriqué un jeu de domino. Remarquant que Carlos Mamani, le mineur bolivien, reste à l'écart du groupe, Mario Sepúlveda l'invite à venir jouer.
Hé, gars, approche donc. T'es aussi chilien que nous autres. Nous sommes tous tes amis, tes frères.
Au fil des jours, Mamani devient imbattable et gagne le respect et l'amitié des autres mineurs. Quand il est dans ses bons jours, Sepúlveda joue indéniablement un rôle dans la cohésion du groupe. Mais il se révèle lunatique. Tantôt souriant et plein d'optimisme, tantôt colérique et querelleur. Entre les mineurs sous pression, le ton monte très vite, mais il se radoucit avant qu'ils n'en viennent aux mains. Chacun a bien conscience qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un blessé sur les bras dans leur situation. Cela fait maintenant une semaine que les hommes n'ont pour seul repas quotidien qu'une minuscule portion de nourriture. Un jour un biscuit, un autre un fond de verre de lait, le lendemain un fragment de tranche d'ananas au sirop. Les corps sont amaigris. Le moindre mouvement demande de plus en plus d'efforts. Les foreuses mettent les nerfs des hommes à rude épreuve. Ils les entendent, elles sont plus ou moins proches, mais toujours trop loin. Deux semaines après la catastrophe, les prisonniers de la mine perçoivent un bruit qui se rapproche de plus en plus. L'outil de forage semble juste au-dessus de leur tête. Tous s'attendent à le voir surgir du plafond d'un instant à l'autre. Et puis le bruit diminue. Le foret vient de longer l'une des parois du refuge et a continué à s'enfoncer dans les profondeurs de la montagne.
C'était horrible. Comme une seconde mort.
La foreuse ne nous a pas trouvés. Je commence à me demander si ce n'est pas le travail d'une main des ténèbres qui ne veut pas que nous nous en sortions. Alex !
Le désespoir des mineurs se transforme en colère contre les propriétaires de la mine. Selon eux, si depuis plus de 10 jours les foreuses des sauveteurs passent toutes à côté du refuge et des galeries alentour, c'est parce que la compagnie dispose de plans trop imprécis de sa propre exploitation.
Les plans de la mine, c'est de la merde!
À mesure que les jours passent, les batteries des lampes s'amenuisent. Quelques-unes ne s'allument déjà plus. Il faut les économiser pour ne pas laisser les ténèbres l'emporter. Effrayante perspective que celle de se retrouver dans l'obscurité absolue. Les mineurs sont à bout de force. Ils ne tiendront plus très longtemps. Désormais, ils n'ont plus droit qu'à un biscuit toutes les 48 heures. Certains envisagent, sans le dire, d'en finir en se jetant dans l'une des profondes crevasses de la mine. Mais ils se soutiennent les uns les autres. Ils ont pris l'habitude de se rassembler chaque jour pour une réunion de prière autour de José Enriquez, le mineur reconverti en pasteur.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pardonnez-moi, Seigneur.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
à présent, lors de ces rassemblements, ils se livrent à des instants de confession publique.
Je suis désolé d'avoir haussé le ton.
Je regrette de ne pas être allé chercher de l'eau avec les autres hier.
L'un des mineurs à la carrure imposante, Victor Zamora, tient lui aussi à dire quelque chose.
J'ai commis une bêtise. Je fais partie de ceux qui ont pillé la nourriture le premier jour, et j'en suis désolé.
Certains l'avaient vu, mais ne l'avaient pas dénoncé.
Je pensais qu'on allait rester coincé seulement 2 ou 3 jours. Je ne me suis pas rendu compte du mal que j'allais causer. Et maintenant, je le regrette infiniment.
Tout le monde semble touché par ses regrets sincères. Aucun reproche ne suit ses aveux. Alex Vega, le plus maigre et le plus mal en point des mineurs, prend la parole à son tour.
Comme on n'a plus grand-chose à avaler, je me dis qu'on ne devrait pas manger aujourd'hui. Ne prenons pas nos rations.
Cela fait 2 jours qu'ils n'ont rien mangé et le plus chétif d'entre eux propose d'attendre 24 heures de plus. Il fait passer l'intérêt du groupe devant ses propres besoins. Son geste suscite émotion et respect dans le regard de ses camarades. Ils attendront tous 1 jour de plus pour manger. Face à l'adversité, les mineurs se révèlent plus unis que jamais, même si beaucoup ont cessé d'espérer. Certains écrivent des lettres d'adieu à leurs proches, imaginant que les secours trouveront peut-être un jour leur message. Le 22 août, à 6 heures du matin, soit 18 jours après l'effondrement, un bruit extirpe les mineurs de leur torpeur. Dans une galerie, juste au-dessus du refuge, une petite explosion suivie d'une chute de pierre. Les hommes les plus vaillants se précipitent. Un outil de forage émerge du plafond et s'immobilise. En surface, on a compris que les dents en tungstène tournaient dans le vide et qu'elles avaient atteint une cavité. Certains tombent à genoux devant cette apparition presque miraculeuse.
On avait l'impression qu'une main avait percé la roche et se tendait vers nous.
Mais comment saisir cette main tendue ? Il leur faut à tout prix signaler leur présence. Les mineurs vident le contenu d'une bombe de peinture rouge sur la tige. Ils y accrochent du mieux qu'ils peuvent des messages. Mais qu'en restera-t-il lorsque le tube métallique se sera frotté à la roche en remontant les près de 700 mètres qui les séparent de la surface? L'outil de forage s'ébranle à nouveau et entame sa lente remontée. Lorsque la tête de la foreuse retrouve la lumière du jour, les ingénieurs distinguent quelques traces de peinture rouge.
C'était là avant, ça ?
Non !
Après avoir inspecté plus attentivement la tige, on découvre un bout de tuyau enroulé d'où s'échappe un morceau de papier détrempé. Avec d'infinies précautions, le ministre des Mines le déplie et lit à haute voix.
Nous sommes vivants au refuge, les 33.
Tous ont survécu. L'incroyable nouvelle déclenche hurlements de bonheur et de soulagement dans le campement des familles. Le président du Chili, Sebastián Piñera, se déplace en personne pour fêter la nouvelle devant les caméras du monde entier. Derrière l'euphorie, une question de taille se pose à présent. La foreuse a percé un puits d'une quinzaine de centimètres de diamètre jusqu'au mineur. Mais comment extraire des profondeurs ces hommes prisonniers des entrailles de la montagne ? Combien de temps pourront-ils tenir psychologiquement ? Une nouvelle course contre la montre s'engage.
Les gars, il y a du nouveau ! Venez vite !
Du fond de la mine,
venez
que le monde entier surnomme désormais les 33, voient descendre du plafond, par le puits qui les relie à présent à la surface, une caméra au bout d'un fil. Luis Urzúa, le chef d'équipe qui avait renoncé à son statut juste après la catastrophe, s'approche de l'objectif. En surface, le ministre des Mines et les sauveteurs voient apparaître sur leur écran deux yeux interrogateurs. Et derrière, les points lumineux de plusieurs lampes frontales. Quelques temps plus tard, un combiné téléphonique rejoint la caméra. Après l'image, le son.
Allô l'équipe ? Ici la surface. Ici la mine. Vous m'entendez ? Ici le ministre de l'exploitation minière. Ici le chef d'équipe, Luis Urzúa. Comment allez-vous ? Dans quel état vous sentez-vous ? Bien ? Nous nous sentons bien. Le moral est bon, nous attendons que vous veniez nous chercher. On va vous faire parvenir de l'eau potable et des liquides nutritifs et les instructions médicales qui vont avec.
Le ministre ne tarde pas à révéler aux mineurs la situation à l'extérieur.
Il faut que je vous dise que le pays tout entier a suivi votre calvaire. Le pays tout entier a participé à votre sauvetage. Sur toutes les places, dans tous les villages, nos compatriotes ont fêté la reprise de contact. Autour de nous, il y a un campement avec toutes vos familles qui ont attendu et prié pour vous.
La chape de solitude et d'isolement qui pesait sur ces hommes vient de se fendre d'un seul coup. Après 18 jours sans quasiment rien manger, les mineurs doivent se réalimenter progressivement. Le premier jour, ils reçoivent chacun une petite bouteille contenant quelques décilitres d'eau sucrée. Ils espéraient bien plus, mais on leur explique que prendre directement un repas solide et copieux dans leur état pourrait provoquer une crise cardiaque. Dans les jours qui suivent, deux autres puits, larges de 15 cm, sont forés pour faciliter la communication ainsi que les envois de vivres et de matériel. Chaque mineur est suivi individuellement par des médecins et un psychologue, Alberto Iturra. Ces derniers sont chargés de veiller sur leur santé physique et mentale jusqu'à ce que l'on parvienne à les délivrer. Et cela va prendre du temps. Le 24 août, le président en personne fait une annonce aux mineurs.
Avec l'aide de Dieu, vous serez dehors pour Noël.
Pour Noël ?
Noël, on ne tiendra pas. Pourquoi c'est si long ?
On tiendra jamais jusque-là !
Un véritable coup de massue pour les 33 prisonniers de la mine. Ils se pensaient tirés d'affaire. Ils vont devoir encore attendre plusieurs mois dans leur trou. Pourquoi un tel délai ? La tâche s'annonce particulièrement périlleuse et ardue. Les ingénieurs veulent forer un puits de 70 cm de diamètre de façon à pouvoir y introduire une nacelle, sorte de cabine d'ascenseur cylindrique suffisamment grande pour contenir un homme debout. Creuser rapidement un puits d'une telle largeur jusqu'à 700 mètres de profondeur est un défi technique. Pour augmenter les chances d'y parvenir, trois stratégies vont être déployées en parallèle. Le plan A utilise une foreuse permettant de creuser directement un trou d'un diamètre suffisant pour faire passer la nacelle. Ce premier forage débute dès le 30 août. 10 jours plus tard, le plan B est lancé. Il consiste à élargir progressivement l'un des puits de 15 cm de diamètre déjà foré. Cette technique permettra d'avancer un peu plus vite que le plan A, mais les risques de casse sont plus importants. Le plan C prévoit d'installer une plateforme de forage pétrolier. Une fois mise en place, celle-ci creusera bien plus rapidement que les deux autres machines, mais son installation sera longue. La réussite d'aucun de ces plans n'est certaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle prendra du temps. Depuis la surface, les sauveteurs font leur possible pour améliorer le sort des 33. Les échanges se font par les puits via des boîtes cylindriques que l'on surnomme les palomas. Sorte de pigeons voyageurs, ces tubes contiennent des boissons, des repas, des médicaments, des lits en kit, mais aussi des lettres des proches. Les mineurs peuvent parfois communiquer avec leur famille directement, mais les temps autorisés sont extrêmement courts. Au début, le psychologue ne leur octroie pas plus de 30 secondes par semaine. Plus tard, il se justifiera.
Si vous avez entre 15 et 30 secondes, vous dites « Je t'aime, tu peux compter sur moi ». C'est tout, pas le temps pour le reste. Le père est triste, la grand-mère est malade, le fils sèche le cours.
Le docteur Itoura veut protéger les mineurs des soucis de l'extérieur face auxquels ils seraient impuissants. Mais devant les protestations des hommes, il consent à allonger les temps d'échange à 8 minutes par semaine. Yoni Barrios choisit de consacrer 4 minutes à sa femme et 4 à sa maîtresse. On fait aussi parvenir aux prisonniers de la mine une caméra pour qu'ils donnent de leurs nouvelles au monde entier. Mario Sepulveda se charge de faire la visite et les présentations.
Comme vous voyez, le soir, on s'occupe en jouant au domino. Les collègues, allez, s'il vous plaît, faites un petit bonjour.
Bonjour à la famille, je veux leur dire que je vais bien.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Bonjour à la famille.
Bonjour à la famille Gomez.
Sortez-nous d'ici, s'il vous plaît.
Les images sont diffusées le soir même dans tous les JT. Mais elles donnent une vision assez éloignée du véritable état psychologique des mineurs. Seuls les passages les plus positifs sont diffusés. La lettre que Victor Segovia envoie à son frère dévoile une réalité plus sombre.
Panchito, je ne vais pas te mentir sur ce que nous vivons ici. On va mal. Très mal. La montagne ne cesse de gronder. Cet enfer me tue. J'essaie de ne pas craquer, mais la nuit, je rêve que je suis en train de griller sur un barbecue. Quand je me réveille, je suis encore prisonnier de ces ténèbres éternelles. Chaque journée m'épuise un peu plus.
Au fil des jours, des dissensions apparaissent.
Claudio m'a gâché la journée en passant son temps à dormir. Il ne se réveille que pour critiquer. Dario a failli en venir au point avec Franklin. Tout le monde est de mauvaise humeur. Avant que l'aide arrive, nous étions en paix. Nous prions tous les jours. Maintenant que les secours sont là, nous ne sommes plus unis. Non. Nous passons notre temps à nous battre, à nous disputer.
L'équilibre du groupe est perturbé par les informations qui arrivent de la surface. Le 7 septembre, les mineurs assistent en direct à un match de foot. Le Chili affronte l'Ukraine. Tous les joueurs de l'équipe chilienne portent un maillot avec l'inscription « Fuerza Mineros ». Allez les mineurs, ils sont devenus des héros, des exemples pour leur pays et même au-delà. Au détour d'une émission, ils apprennent qu'un milliardaire leur promet de l'argent. Quelques jours plus tard, le gouvernement de la République dominicaine annonce qu'il offre aux 33 et à leur famille des vacances dans une station balnéaire du pays. Ces promesses de dons et de cadeaux font tourner les têtes.
C'était surréaliste. Simplement, au bout d'un moment, toutes ces absurdités commençaient à nous sembler normales.
Chaque jour, les journaux sont envoyés aux mineurs pour les occuper. C'est ainsi qu'ils découvrent dans l'un des plus grands quotidiens du Chili un long article consacré à Mario Sepulveda, qui est devenu une célébrité après la vidéo diffusée dans les JT. sa femme a laissé publier les extraits d'une lettre qu'il lui avait envoyée et dans laquelle il raconte sa place dans le groupe.
Je suis le chef suprême. Je coordonne les opérations, je donne des ordres et comme d'habitude, je garde mon calme en toutes circonstances. Mais le plus beau là-dedans, tu sais, c'est que je suis respecté de tous et que rien ne se fait sans que je sois tenu au courant.
Plusieurs mineurs n'apprécient pas la façon dont leurs camarades se mettent en avant. Ils l'accusent d'attirer l'attention des médias en vue de gagner de l'argent en racontant dans un livre leur histoire commune.
Est-ce que tu comptais nous inclure dans ce contrat d'édition? L'as-tu signé?
Bien sûr qu'il a signé. À partir de maintenant, on s'en sortira sans toi, leader courageux.
Donne-moi ça!
Qu'est-ce que tu fous?
Mais qu'est-ce que tu fous? Hé!
On veut plus de toi!
Allez,
dégage!
Fous le camp d'ici!
Les mineurs sont dans une situation qui ne peut que les déstabiliser. Confrontés à un emballement médiatique et des promesses d'argent facile, tout en étant prisonniers d'une montagne qui menace à tout moment de les ensevelir définitivement. Ils n'ont de contrôle sur rien. Ils ne décident même pas de ce qu'ils peuvent manger ou de la durée des communications avec leur famille. Leur vie privée s'étale au grand jour. La presse raconte les déboires conjugaux de Yoni Barrios. Pendant que le cirque médiatique tourne à plein régime en surface, les opérations de sauvetage s'enrayent. La tête de la foreuse du plan B se casse et reste coincée dans la roche.
On a probablement frappé de l'acier, une poutre de soutien ou autre chose. Je vais aller appeler mes contacts au Brésil pour qu'ils nous envoient un de leurs gros aimants.
Le plan A est également à l'arrêt pour cause de problèmes hydrauliques. Et le plan C peine à se mettre en place.
Ils ont arrêté de forer, on n'entend rien.
Au fond de la mine, le moral en prend un coup. Chacun se raccroche aux proches qui les attendent à l'extérieur. Le 14 septembre, Ariel Ticona découvre dans une vidéo sa femme sur son lit à la maternité, tenant dans ses bras leur petite fille. Il était prévu de l'appeler Carolina Elisabeth. Ce sera finalement Esperanza, espérance, un sentiment qui fait tenir les mineurs et leur famille depuis maintenant un mois et demi. Et il y a des raisons d'espérer. Les problèmes techniques ont été réglés. Les foreuses se sont remises à tourner. Les mineurs ont enterré la hache de guerre et font des efforts pour vivre en bonne intelligence. Certains se sont remis au travail. Ils dégagent des gravats et cassent des portions de parois pour faciliter l'arrivée des foreuses. Le 9 octobre, soit 65 jours après l'effondrement, la foreuse du plan B touche enfin au but. Il est 8h02 quand elle perce le plafond de la galerie. Les 33 se rassemblent sous le trou désormais suffisamment large pour y faire passer un homme. Ils s'embrassent les uns les autres. La délivrance est proche. Le temps de sécuriser le conduit et de faire quelques essais. Et 4 jours plus tard, le mercredi 13 octobre 2010, tout est prêt. La nacelle, baptisée Phoenix, suspendue à une grue, entame sa descente. C'est une cabine cylindrique aux allures de fusée à la Jules Verne qui s'enfonce lentement dans les profondeurs. Au fond de la mine, Victor Segovia ouvre une dernière fois son journal et écrit.
Après les avoir portés 2 mois et 8 jours, la Terre va donner naissance à ses 33 enfants.
La remontée des mineurs, un à un, se fait sous les applaudissements des familles et le regard des 2000 journalistes venus du monde entier pour couvrir en direct cette opération de sauvetage hors norme.
Écoutez, le processus de sauvetage se poursuit sans encombre et selon un rythme maintenant régulier d'environ un mineur sorti toutes les heures, on craignait des problèmes d'évanouissement, de panique, de claustrophobie et finalement, ils ont tous parfaitement résisté à ce voyage inédit de 15 minutes dans une nacelle large d'à peine 53 cm.
22 heures après le début de l'opération, le dernier mineur à être secouru, le chef d'équipe Louis Sourdzoua, regagne la surface. Lui et ses compagnons viennent de passer 69 jours sous terre.
En surface, les familles n'ont jamais chanté aussi fort. Le chef de quart, Louis Sourdzoua, vient d'arriver en très bonne condition physique. C'est l'ultime étape d'un sauvetage historique.
L'émotion est à son comble. les mineurs étreignent tour à tour femmes, enfants, parents, frères et sœurs. Ils ont aussi le droit à une accolade chaleureuse du président Piñera.
Oui, c'était évidemment trop tentant pour le président chilien. Il a donc pris dans ses bras un à un les premiers mineurs rescapés avec un sourire éclatant sous les caméras du monde entier. Un coup de pub planétaire depuis le début de cette histoire. Il faut savoir qu'il a gagné plus de 10 points de popularité. Il continue donc de surfer sans scrupule.
Les 33 sont tous sains et saufs. Mais l'épreuve qu'ils viennent de vivre les a profondément et durablement marqués. Après l'emballement médiatique et les invitations sur les plateaux de télévision du monde entier, beaucoup retournent à l'anonymat et tentent de se reconstruire.
Les gens croyaient qu'on avait reçu beaucoup d'argent, mais ce n'est pas vrai.
Les sommes ne sont pas si importantes et elles sont vite dépensées. Si quelques rescapés parviennent à retravailler dans des mines, les autres changent de métier ou peinent à trouver un emploi. Des années après la catastrophe, ils sont plusieurs à souffrir de stress post-traumatique. Seuls quelques-uns, comme Mario Sepulveda, continuent à dispenser des conférences rémunérées sur ce que leur expérience sous terre leur a appris. Au cœur de l'Atacama, la mine de San José a définitivement cessé d'être exploitée après l'accident. Avant de refermer son journal souterrain, Victor Segovia a tracé un cœur dans lequel il a inscrit
« J'aime la San José ». La San José était innocente. Les coupables, ce sont ceux qui n'ont pas su la gérer.
In Extremis, histoire de survie, est un podcast original de France Inter.